Après une rencontre qui ne s'est pas terminée comme il le souhaitait, Béa et Ben se retrouvent de manière inattendue à un mariage et font ce que deux adultes matures feraient pour sauver les apparences, faire semblant d'être le couple parfait. N'importe qui sauf toi, une comédie à regarder dès le 26 avril sur Crave. 1975, fin de la guerre du Vietnam. Un capitaine de l'armée chargé des exilés aux États-Unis doit lutter pour ne pas révéler sa véritable identité. Espion du Parti communiste, Le Sympathisant, une série originale HBO à regarder dès maintenant sur Crave.
Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire de Sur la glace, notre avant-dernier rendez-vous de la saison. On va s'en faire une dernière la semaine prochaine avant la Coupe Memorial slash la Coupe Calder, on ne sait pas. Est-ce que le Rocket va participer à la Coupe Calder? Le Rocket qui peut dire mission accomplie, revenu de Springfield en fin de semaine avec une victoire et une défaite. À l'aube de trois matchs à la Place Belle ce soir, 8 juin, le mercredi 8 juin. Vendredi et samedi, matchs 4 et 5 sont assurés maintenant, tous présentés sur les ondes de RDS. Est-ce que le Rocket de Laval, à la cinquième saison de son existence, va pouvoir se qualifier pour la grande finale de la Coupe Calder? Comme on dit, il en reste 4 et le Rocket est au plus fort de la course présentement. Il en sera évidemment abondamment question dans notre balado-diffusion de cette semaine. On va également aussi beaucoup parler des éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de cette finale de la Coupe du Président qui bat son plein entre les Cataractes de Shawinigan et les Islanders de Charlottetown. Ce soir, RDS 2 vous présentera le match numéro 3 en direct du centre Gervais-Auto à Shawinigan. Les Cataractes ont pris les devants 2-0 face aux Islanders de Charlottetown. Beaucoup de controverses au niveau de l'arbitrage. Ça, c'est pas un sujet nouveau. C'est assez récurrent à chaque année. Je vais en parler tantôt. Je vais vous dire ce que j'en pense de tout ce qui s'est passé là, en termes de controverses au niveau de l'arbitrage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ces derniers jours. On va également parler de ce qui se passe en Ontario et dans l'Ouest parce que, comme je le disais, la Coupe Memorial approche à grands pas. Dans une douzaine de jours, on sera tous à Saint John au Nouveau-Brunswick là, pour la présentation de la Coupe Memorial. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale, une journée pour au niveau de la famille qu'on va se souvenir hein, parce que RDS, ce soir, présente le match numéro 3 de la série de la Ligue américaine entre Laval et Springfield. Je serai à la description avec mon collègue Bruno Gervais. Andréanne Barbeau sera avec nous à l'animation. Ça va se passer à la Place Belle, RDS 19h. Mais à RDS 2 à 19h, Jasmin, mon fils, sera à la description du match entre les Cataractes et les Islanders de Charlottetown à Shawinigan. Évidemment, hein, je vous apprends rien, on ne peut pas être à deux endroits en même temps. Alors, ce soir, je suis à Laval, Jasmin est à Shawinigan pour assurer la description du match. Il sera là avec Marc-André Dumont et François-Étienne Corbin. On le sait que c'est le retour du hockey junior, du hockey de la Ligue canadienne à RDS cette année. Je m'en réjouissais beaucoup. J'étais loin de me douter lorsqu'on a fait cette annonce qu'en pleine finale de la Coupe du Président, le Rocket de Laval serait encore en action, mais c'est le cas présentement. Alors, demain, je vais aller décrire le match numéro 4 à Shawinigan et je serai de retour vendredi et samedi là, pour les matchs numéro 4 et 5 à Laval. Si évidemment la série se poursuit au-delà de demain, ben Jasmin sera avec Marc-André à Charlottetown samedi après-midi pour le match numéro 5. RDS va vous présenter tous les matchs de la série finale de la Ligue junior majeure du Québec jusqu'à sa conclusion, jusqu'à la remise de la Coupe du Président. Nos collègues à TSN présentent en ce moment également les matchs finales de la Ligue de l'Ontario et de la Ligue de l'Ouest. Donc, si vous voulez suivre ça aussi, nos collègues sont là aussi. Il était question à RDS qu'on puisse présenter également des matchs de ces finales, mais là, évidemment, avec le Rocket, avec la Coupe du Président au Québec, disons que nos ondes sont pas mal occupées présentement. On s'en réjouit, on a beaucoup de plaisir là, avec ces matchs-là. Ce soir, en plus, il n'y a pas de match Ligue nationale, donc toute l'attention est sur le Rocket et sur la Coupe du Président. On en est bien heureux. du côté de RDS. Donc, mes invités au cours de l'émission, ben, on va s'entretenir un petit peu plus tard avec Xavier Bourgault, choix de première ronde des Oilers d'Edmonton, attaquant des Cataractes de Shawinigan, qui a réussi une première en 53 ans d'histoire, c'est-à-dire marquer la même année 3 buts en prolongation en séries éliminatoires. Il y en a qui l'ont déjà fait, 3 buts en carrière là, sur 2 ans ou sur 3 ans en séries éliminatoires, mais la même année, c'était jamais arrivé. Jusqu'à présent, Xavier Bourgault donc, a inscrit 3 buts gagnants en prolongation sur les 5 victoires que les Cataractes sont allés chercher jusqu'ici en prolongation. Alors, on s'entretient avec Xavier Bourgault un petit peu plus tard. On va s'entretenir dans quelques instants aussi avec le collègue Patrick Friolet, qui était à l'entraînement du Rocket de Laval ce matin pour surveiller tout ça là, pour RDS et pour en vue de notre préparation de notre match de ce soir. Alors, ça bouge beaucoup. Question de se mettre dans l'ambiance un peu. Hier, à la séance d'entraînement, on a parlé de plusieurs sujets avec l'entraîneur-chef Jean-François Houle. Évidemment, il a été question des 2 matchs à Springfield, de la robustesse un peu, du fait qu'on a tenté de déranger Caden Primeau et de la possibilité aussi qu'on voit très bientôt dans la série l'attaquant Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke qui a été éliminé la semaine dernière, on le sait. Donc, on est revenu sur certains de ces sujets avec Jean-François Houle. On vous présente d'abord ce petit extrait d'entrevue, puis un petit peu plus tard, on s'entretient avec Patrick Friolet.
C'est une grosse marche. C'est du hockey physique présentement. On sait que Springfield ils ont beaucoup d'expérience, ils n'ont pas beaucoup de jeunes, mais je pense qu'il il a prouvé qu'il est capable de jouer à un haut niveau. Il faut rester discipliné, il faut jouer au hockey. C'est sûr qu'ils vont essayer de mettre du trafic devant Primeau. Il joue très bien, puis il essaie de le déconcentrer. Puis nous, on va faire la même chose avec leur gardien de but.
On met du trafic devant Primeau. Il joue très bien présentement. Joel Hofer joue également très bien pour les Thunderbirds. La grande question, pourquoi on a sorti Joel Hofer dans le match numéro 2 dimanche pour donner une chance à Charlie Lindgren qui était de retour de son passage avec les Blues de Saint-Louis? C'est une bonne question. Lindgren a été, je vais être poli, je vais dire moyen, je dirais pas mauvais, mais je vais dire qu'il a été moyen et je trouve qu'il a remis un peu le Rocket dans cette série en permettant 2 buts, disons, un peu plus douteux, de sorte que le Rocket a quitté Springfield avec 1 victoire et 1 défaite. Il y a également des blessés. Là, il y a la situation de Joshua Roy va beaucoup dépendre de celle de Cédric Paquette, de Gabriel Bourque. Paquette n'a pas pris part au match numéro 2. Bourque a quitté en cours de route pendant le match numéro 2. Alors, c'est des décisions qui vont se prendre probablement d'ici la période d'échauffement ce soir. Au moment où vous écoutez le balado-diffusion, peut-être que la décision est rendue ou non à savoir si Joshua Roy sera en uniforme ou pas. Chose certaine, il y a à peu près une demi-heure, 45 minutes. On s'est entretenu avec le collègue Patrick Friolet, qui était à Springfield en fin de semaine. On est revenu sur les 2 premiers matchs du Rocket et on parle aussi là, de ce qui s'en vient au cours des prochains jours.
Le collègue Patrick Friolet est allé faire un tour du côté de Springfield. Il a assisté aux 2 premiers matchs de la série. Patrick, je pense que c'était inespéré de voir le Rocket revenir avec 2 victoires, mais ça a failli. 1 victoire, c'est la job est faite, comme on dit.
Oui, 2 minutes 54, c'est ce qui restait à la 3e période du premier match qui était contrôlé par le Rocket généralement. On gardait les joueurs à l'extérieur, puis on faisait de l'excellent travail défensivement. On a réussi à frustrer là, les Thunderbirds dans les 2 premiers matchs. Honnêtement, oui, facilement, le Rocket pourrait mener 2-0 dans cette série-là. Ça s'est décidé avec une ouverture pour Mathieu Pekka qui est venu de façon inespérée. Mathieu Pekka qu'on a peu vu depuis le début de cette série-là, mis à part ce but-là. Même chose pour Sam Hannes du côté des Thunderbirds. Je pense que le Rocket peut vraiment dire mission accomplie parce que là, on revient à Laval avec 3 matchs à domicile, avec une foule qui va être intimidante pour l'adversaire. Et on a réussi vraiment là, à jouer à retrouver notre identité. Je pense que le crunch de Syracuse a réussi peut-être à ébranler un peu le Rocket dans sa façon de jouer parce qu'on était très intense, parce que le jeu physique était là, il y avait beaucoup d'expérience. Par la suite, on a senti qu'on prenait vraiment confiance contre les Americans de Rochester. Là, le piège, c'était de tomber contre une équipe expérimentée de façon peut-être un peu confortable en se disant « on sait ce qu'on a à faire ». Mais non, au contraire, on est demeuré très humble, on a continué à travailler fort. La première période, c'était un ajustement parce que les Thunderbirds, évidemment, sont sortis très fort. Mais par la suite, là, à partir de la 2e, de la 3e période dans ce premier match-là, On a senti le Rocket s'installer, les bâtons constamment sur la rondelle pour les joueurs en défense, les attaquants qui s'impliquent défensivement. Puis, il y a eu peut-être plus de revirements dans le premier match. Kaden Primo a eu à signaler à quelques occasions. Ça a été beaucoup moins le cas dans le deuxième match. J'ai senti vraiment une équipe en contrôle puis en confiance. Ça va être difficile d'ébranler le Rocket au point de sortir avec deux victoires là, pour les Thunderbirds sur les trois matchs. Je vois mal comment ça pourrait arriver, la façon que le Rocket se comporte actuellement.
Tu as parlé de Kaden Primo. On l'a quand même un peu bousculé là, à quelques occasions. Je pense que Will Bitton veut jouer dans sa tête. Hugh McGinn veut jouer dans sa tête aussi. Puis, va falloir être vigilant là-dessus, là, du côté du Rocket. Là.
Bien, c'est sûr qu'il y a un équilibre à trouver parce que oui, Bitton est clairement en mission parce que non seulement il bouscule en passant dans son demi-cercle, mais même dans les arrêts de jeu, on voit Bitton aller des fois passer pas loin, dire quelque chose à Primo, essayer de le sortir de sa bulle. Puis Primo est quand même assez mature puis assez fort mentalement pour rester à l'écart de tout ça. Mais du côté des défenseurs, des joueurs qui sont autour, près du filet, ça va être important de garder notre équilibre à travers tout ça parce que Bitton, clairement, il veut faire sortir Laval de ses gonds. Puis, mais on a quand même été assez bon du côté du Rocket jusqu'à présent. Je pense que Toby Bisson l'a dit. Il va clairement vouloir passer un petit message à Will Bitton, mais il va falloir le faire dans les limites de la légalité puis de ne pas se mettre dans le trouble parce qu'on le sait, même si on a été capable de les contenir jusqu'à maintenant, les Thunderbirds en avantage numérique, tôt ou tard, ça peut débloquer pour eux si on leur donne confiance dans cette phase du jeu-là.
Je sais que tu n'as pas vu tous les matchs cette année à Laval. Moi, Patrick, j'ai dit en début de série que Springfield, selon moi, c'était la meilleure équipe qu'on avait vu passer à la Place Belle cette année, sans manquer de respect là, aux Comets de Utica, là, tu sais, qui ont été quand même premiers dans la division du Rocket. Je pense que d'une façon générale, Springfield, c'était une des bonnes, sinon la meilleure équipe qu'on a vue. Et là, ben, tu l'as dit, on peut se retrouver dans une situation où si le Rocket gagne deux des trois prochains matchs, au pire, retourner à Springfield lundi en avance 3-2, tout est possible pour une participation à la grande finale de la Coupe Calder. Là.
Absolument. Puis, tu as raison que c'est une équipe qui est aguerrie. Le Crunch, c'était une équipe qui était expérimentée, mais de façon différente. J'ai l'impression qu'on a des joueurs qui sont solides physiquement, on a de bons patineurs, puis on sent un plus grand instinct offensif, j'ai envie de dire, avec les Thunderbirds de Springfield. Quand on regarde James Neal, qui joue sur un troisième trio, mais qui n'est pas nécessairement le plus rapide, mais il joue de façon quand même intelligente, il connaît le métier. Sam Hannes, Matthew Pekka, c'est des joueurs qui sont dangereux. J'ai aimé McGinn, qui est très, très actif, un bon patineur. On a plusieurs de ces joueurs-là qui sont capables de faire le travail offensivement. Puis quand on regarde défensivement, bien, on a un Tommy Cross qui est expérimenté. On a des joueurs lourds qui sont capables de brasser. Exactement. Puis devant le filet, bien là, on a vu Charlie Lindgren dans le deuxième match, mais j'ai l'impression que Joel Hofer, ça va être lui qui va revenir parce qu'il est tellement. Il a tellement changé le match complètement dans le premier match. Il a été solide, il a fait des arrêts clés. Puis il y a quelque chose qu'on sous-estime peut-être, c'est sa capacité à relancer le jeu. Ah ouais. Puis ça a fait en sorte, même Jean-François Hull en a parlé, on le sait que le gardien est bon pour décocher des passes. Il faut être très alerte quand on fait des changements, surtout en deuxième période, quand on va être plus éloigné de l'endroit où on veut faire les changements. Bien, il va falloir être vigilant parce que Hofer va vouloir constamment décocher des longues passes pour créer des surnombres. Puis à ce niveau-là, je vois mal, Stéphane, comment Hofer pourrait être tassé d'un match d'ici la fin. Parce que Lindgren, les deux premiers buts qu'il a donnés, ça a peut-être donné le carburant aux Thunderbirds. C'était pas nécessairement des tirs menaçants. Le premier, c'est un but où Gignac est seul devant le but, oui, mais ça se faufile entre ses jambières. Puis par la suite, le tir de Ilonen qui lui échappe, bien là, à ce moment-là, on donne les deux premiers buts aux Rockets. Par la suite, bien, les deux buts suivants, c'est des très beaux jeux. Lindgren n'a quand même pas été mauvais dans l'ensemble. Mais quand on regarde, on compare les deux, Hofer a des statistiques incroyables et est une présence beaucoup plus imposante que Lindgren l'a été. Puis autour de son but, bien, il fait ce travail-là que Lindgren n'est pas capable de faire au même niveau, ça c'est certain.
Il y a un but, une passe. Il est meilleur que certains défenseurs de son équipe, on l'a dit dans notre match. Et pour t'as raison pour Lindgren, on a revu des flashs malheureux là, de Charlie Lindgren des dernières années avec Laval qui avait tendance justement à accorder des mauvais buts. Et moi, j'ai été de ceux qui ont dit en début de match, le numéro 2, ça prend du front un peu pour enlever un gardien qui a 1,36 de moyenne et 965 de taux d'efficacité. Alors, je suis pas convaincu, évidemment, qu'on va revoir Lindgren ce soir. Je sais que tu n'es pas encore à la séance d'entraînement puis tout ça, puis on va en apprendre plus au cours des prochaines heures, mais c'est pas impossible qu'on voit Joshua Roy là, ce soir et au pire vendredi. Là.
Oui, puis je sais qu'il y a eu beaucoup de questions sur les médias sociaux dans les derniers jours. Dès qu'on parlait d'un changement possible à la formation, on recevait des mentions sur Twitter. Est-ce que Joshua Roy va jouer? Jean-François Hull n'a pas fermé la porte dès le début. Et là, ben, il s'est entraîné une seule fois à Springfield. On jouait deux matchs. C'était difficile peut-être de le lancer dans la mêlée, surtout sur la route. Là, on va pouvoir peut-être mieux le gérer offensivement quand on regarde comment on va pouvoir jumeler les trios avec les adversaires sur la patinoire. Mais je veux juste mettre un bémol. C'est sûr que Joshua Roy est un joueur qui peut marquer des buts. C'est un joueur qui a un bon instinct offensif. Mais il faut pas oublier, puis je veux rien y enlever, il y a eu une saison exceptionnelle. Mais il faut pas oublier qu'il arrive dans un contexte difficile. Là. Premièrement, le saut entre la LHJMQ et la Ligue américaine, c'est quand même important. Puis il arrive dans un contexte où on est en finale de l'Est. Donc, il faut quand même avoir du courage pour dire, on envoie Joshua, puis on veut voir ce qu'il est capable de nous donner, même après seulement deux ou trois séances d'entraînement. J'ai hâte de voir, honnêtement. Je suis curieux aussi. J'ai hâte de voir comment il va être capable de le faire, mais je pense qu'il faut juste être prudent avec les attentes parce que c'est pas. Même s'il marque trois buts à son premier match, ça ne veut pas dire qu'il est prêt nécessairement. Puis même s'il ne marque pas et même s'il se fait frapper solidement, ça ne veut pas dire que c'est un flop non plus. Il risque de se faire frapper solidement. Gabriel Book s'est fait frapper solidement par Dakota Joshua. Il est un cas incertain justement pour le match. Il ne s'est pas entraîné hier. Je veux juste qu'on soit prudent quand même dans les attentes qu'on va avoir parce qu'il y a de l'intérêt, il y a beaucoup de questionnements. On veut voir Joshua Roy en action. Je veux le voir autant que tout le monde. Puis je suis content pour lui qu'il ait cette opportunité-là. Mais qu'il réussisse ou qu'il ne réussisse pas, ça ne définit pas le joueur qui va être. Puis de toute façon, l'année prochaine, pour lui, c'est la LNH ou la LHJMQ. Donc, je pense qu'au-delà de tout ça, son développement se passe très bien. Il ne faut juste pas l'échapper et penser que ça va être un flop, même s'il ne réussit pas à marquer ce soir.
La marche est plus haute du junior à la Ligue américaine que de la Ligue américaine à la Ligue nationale. Puis on l'a vu dans les dernières années. On a vu des gars, puis sans rien leur enlever, là, mais des Antoine Wakehead puis des Alexandre Alain qui avaient eu des statistiques à l'âge de 20 ans sensiblement les mêmes, même peut-être un petit peu moins là, que Joshua Roy a eu à 18 ans cette année. Puis ils n'ont pas été capables de vraiment s'établir dans la Ligue américaine comme des machines offensives comme ils étaient dans le junior. Alors, il faut faire attention à ça. L'autre chose, on peut faire une petite comparaison. Nick Suzuki a joué un match dans la Ligue américaine dans sa carrière. C'est à la fin de sa saison de 18 ans avec Owen Sound. Il avait été retrouvé le Tube École de Vegas à Chicago. Il avait joué un match. C'est le seul match qu'il a joué dans la Ligue américaine. À 19 ans, il est retourné dans le junior. Puis à 20 ans, il a joué dans la Ligue nationale. Ça va peut-être être ça, le chemin de Joshua Roy. On ne le sait pas. Oui. Mais tu as raison de tempérer les attentes. Puis il y a une question de respect aussi, je pense, avec les joueurs qui sont là depuis le début de l'année.
Absolument.
On va peut-être entrer ce soir un Joshua Roy puis laisser de côté un Kevin Roy qui était là toute l'année, laisser de côté un Devante Smith-Pelly qui était là toute l'année, un Cam Ellis qui était là une bonne partie de l'année aussi. Alors, tu sais, il y a ça aussi à gérer là, du côté de l'entraîneur puis du personnel. Là.
Oui, puis ça, c'est un point intéressant. Je voulais rebondir là-dessus justement parce qu'il y a une certaine hiérarchie au hockey, tu sais, puis c'est important. Oui, on veut donner une opportunité à un jeune qui est prometteur, qui est un bon espoir, mais de l'autre côté, on veut pas perdre notre vestiaire en faisant des choses comme ça. Mais c'était quand même important qu'il arrive, qu'on se rende compte aussi qu'il est capable de suivre, qu'il est capable de faire les choses dans les entraînements. Mais il va falloir quand même être prudent dans la façon où, oui, c'est sûr que Joshua Roy est un joueur productif offensivement, mais est-ce qu'il va être placé dans les mêmes situations? C'est là la différence. C'est que, puis quand tu parles de
25 minutes par match à Sherbrooke,
ben exactement, c'est ça. Il est constamment sur les avantages numériques. Il a tout le temps le plus de minutes. On le place dans des bonnes situations sur la glace. On le place en zone offensive pour les mises en jeu. Ça ne sera pas la même chose s'il joue avec Cédric Paquette et Joel Teasdale sur un troisième trio. On va s'attendre à ce qu'il soit hargneux dans ses batailles le long des bandes. Ça, c'est un gros ajustement quand on fait le saut de la LHJMQ à la Ligue américaine. Un joueur de 18, 19, 20 ans qui va affronter un Tommy Cross qui a 32 ans dans le coin de la patinoire, qui l'attend puis qui veut le frapper, ça sera pas la même chose. Donc, il va falloir qu'il soit alerte à ce niveau-là. Je le sais qu'il a quand même une bonne tête de hockey qui va être capable de bien lire le jeu, mais on lui demandera pas la même chose qu'on lui demande dans la LHJMQ. On va être bien content s'il marque des buts, mais on va lui demander d'être tenace et d'être efficace dans ses bagarres le long des rampes, de pas perdre ses combats. Ça, c'est la priorité pour un joueur quand il se retrouve dans des contextes un peu différents sur un troisième, quatrième trio. Puis c'est ce qui fait la différence quand un joueur, tu le sais, Stéphane, là, des joueurs qui ont des statistiques dans la LHJMQ On en a vu plusieurs, mais par la suite, c'est de se trouver un rôle dans les rangs professionnels. Je dis pas que Joshua Roy va être un joueur défensif dans les rangs professionnels, mais c'est juste que présentement, il doit être capable de démontrer qu'il est capable de faire ça pour avoir une place dans la formation.
Patrick, merci beaucoup. On te laisse aller à la séance d'entraînement. On va se reparler, évidemment, ce soir. On est là en direct, toute l'équipe. Alors, match numéro 3, 19h sur les ondes de RDS. Merci beaucoup, Pat.
Merci, j'ai bien hâte. Il va y avoir de l'ambiance en masse.
Ouais. Tailgate aussi, avant. Là, il y a de l'action. Merci, salut.
Yes. Salut, Steph. Merci.
Après une rencontre qui ne s'est pas terminée comme il le souhaitait, Béa et Ben se retrouvent de manière inattendue à un mariage et font ce que deux adultes matures feraient pour sauver les apparences, faire semblant d'être le couple parfait. N'importe qui sauf toi, une comédie à regarder dès le 26 avril sur Crave. 1975, fin de la guerre du Vietnam. Un capitaine de l'armée chargé des exilés aux États-Unis doit lutter pour ne pas révéler sa véritable identité. Espion du Parti communiste. Le sympathisant, une série originale HBO à regarder dès maintenant sur Crave.
Ouais, sur l'esplanade de la Place Belle ce soir, on espère là, qu'il n'y aura pas de pluie. Je sais qu'il y en a présentement selon les prévisions météorologiques. Pour ajouter, là, depuis le moment où on a parlé à Patrick jusqu'au moment où on enregistre présentement, il semble acquis que Cédric Paquette sera en uniforme ce soir. Dans le cas de Gabriel Bourque, on va attendre cet après-midi plus tard. Alors, la présence de Joshua Roy est intimement reliée à la présence, j'ai l'impression, de Gabriel Bourque. Mais dans le cas de Cédric Paquette, il devrait être là ce soir, ce qui est une excellente nouvelle pour le Rocket. Peut-être vous mentionnez que les Thunderbirds de Springfield sont venus 4 fois à la Place Belle depuis les débuts du Rocket à Laval et n'ont jamais subi la défaite Springfield à Laval. En avril 2018, Springfield avait emporté 5-1. En octobre 2018, donc lors de la deuxième saison, en 18-19, Springfield avait joué 2 matchs en 2 jours à Laval, des victoires de 5-3 et de 4-2. Lors de la saison 2019-2020, Springfield devait venir au mois d'avril lorsque la COVID a éclaté, donc ne sont jamais venus cette année-là. L'an passé, on le sait, on a joué seulement une division canadienne. Et cette année, lors de leur seule visite, les Thunderbirds l'ont emporté 5-2. Ça se passait le 7 mars 2022. Donc, 4 matchs entre les deux équipes à Laval, 4 victoires pour Springfield. C'est le temps de changer la tendance du côté du Rocket. En 2 matchs depuis le début de la série, ben, le Rocket est 0-4 en avantage numérique, les Thunderbirds 0-7. Les Thunderbirds ont réussi 6 tirs au but de plus que Laval, 74-68. Mais une statistique intéressante, le Rocket n'a jamais tiré de l'arrière dans cette série. Lors du premier match, on a pris les devants, on s'est fait égaler à la fin de la troisième et il y a eu le but en prolongation. Donc la seule fois que Springfield a mené dans ce match-là, c'est lors du but en prolongation, ça s'est terminé. Et lors du deuxième match, ben, on le sait, le Rocket a pris les devants 2-0. Donc on a joué 129 minutes à venir jusqu'à présent. Le Rocket a été en avance 76 minutes et on a été à égalité 53 minutes. Alors ça, c'est une bonne nouvelle également du côté du Rocket. Ce qui sera intéressant également à surveiller au cours des prochains matchs, c'est l'engouement que ça va prendre. Ça va monter, j'ai l'impression, encore d'un niveau long. On l'a vu contre Rochester et contre Syracuse. Les foules à Laval ont été particulièrement présentes. Tous les billets sont vendus pour les 3 prochains matchs. Et je vous répète, le RDS, on est là ce soir, vendredi et samedi. 3 matchs à 19h, les matchs 3, 4 et 5. Et on verra par la suite si on devra retourner ou non à Springfield pour des matchs 6 et 7 la semaine prochaine. Dans l'autre demi-finale de la Ligue américaine, les Wolves de Chicago ont pris les devants 2-0 face au Heat de Stockton. Ça, c'est le club école des Hurricanes de la Caroline contre le club école des Flames de Calgary. Chicago mène 2-0, gagné 2 premiers matchs à domicile. On a gagné un match en prolongation et l'autre, on l'a gagné quelques secondes avant la fin de la 3e période. Là, on se déplace maintenant pour 3 matchs du côté de Stockton. Match numéro 3 ce soir, 22h, 21h30, l'heure de l'Est. Donc, on suit ça évidemment parce que si le Rocket gagne sa série, jouerait la finale de la Coupe Calder contre le gagnant de Chicago et Stockton. Il faut dire que Chicago a dominé au cours de la saison. En série, les Wolves présentement ont une fiche de 8 victoires, 1 défaite. Stockton une fiche de 6 victoires, 3 défaites. Chicago, c'est vraiment été la meilleure équipe de la Ligue américaine cette année avec 110 points. Stockton en a récolté 97, Springfield 95 et Laval qui est dernier dans les 4 équipes restantes avec 85 points au classement cette saison. On parle maintenant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il s'est passé plein de choses au cours des derniers jours. On va revenir sur les controverses. On a beaucoup jasé de cette fameuse punition écopée par le défenseur russe Sivolod Komarov. À la fin du match numéro 5, j'étais là à Québec mercredi dernier. La série est égale 2-2. Les Remparts mènent 3-1 à un certain moment en deuxième période. Shawinigan crée l'égalité en fin de deuxième. S'approche à un but en fin de deuxième. Crée l'égalité en troisième période, c'est 3-3. Il n'y a pas beaucoup de punitions qui sont signalées de part et d'autre. Et là, finalement, avec 1 minute 9 secondes à écouler en troisième, l'arbitre Olivier Gouin, puis je ne veux pas spécifier lui plus qu'un autre, je sais qu'il a été identifié là, par... les partisans des Remparts, évidemment, parce qu'on a fait le lien avec la finale de 2015 où ce même Olivier Gouin avait signalé une infraction là, en deuxième période de prolongation lors du match numéro 7 contre les Remparts. Et ça avait pavé la voie à la victoire et à la conquête de la Coupe du président de l'Océanique de Rimouski en 2015. Bref, tout ça pour vous dire que c'est pas facile, on le sait, l'arbitrage. Et les partisans sont toujours là, prêts à condamner les arbitres. C'est l'excuse la plus facile au hockey, c'est la faute de l'arbitre. C'est toujours la faute de l'arbitre. Quand l'équipe gagne, c'est normal. Quand l'équipe perd, c'est la faute de l'arbitre. On entend ça. Ça fait 32 ans que je fais ce métier-là. J'ai dû entendre ça 2468 fois minimum. Et je suis conservateur. Ce que j'aimerais dire, c'est que normalement, une infraction devrait être signalée en tout temps, que ce soit avec 1 minute 9 secondes à jouer, que ce soit en prolongation, que ce soit en début de match, une infraction, c'est une infraction. Il y a cette mentalité-là au hockey où on dit, les plus vieux vont toujours dire, « Ah, l'arbitre, faut pas qu'il influence le résultat du match, puis qu'il aille donner une punition quand il reste 1 minute 9 secondes, ça... » C'est l'arbitre qui détermine l'issue du match. Si l'arbitre ne donne pas la punition, il influence aussi le déroulement du match parce que si tu avais mérité un avantage numérique puis tu ne l'as pas, puis que l'équipe qui aurait dû être punie ne l'est pas et qu'elle marque, moi, je pense que tu as influencé l'allure du match aussi. Là, les gens disent, il avait serré son sifflet tout le long en troisième période. Oui, c'est possible. Puis, il n'est pas le premier à faire ça. Puis, là, je parle de l'incident à Québec. Puis après ça, on va parler de l'incident à Charlottetown aussi. Là. La vérité, là, c'est que c'est un sport mené par des humains. Puis il faut arrêter de voir des complots partout. Il y a tout le temps des complots. Ah, la Ligue ne veut pas que les Maritimes gagnent. Ah, la Ligue veut que Québec gagne. Ah, la Ligue veut que Shawinigan gagne. Ah, la Ligue veut que... Non, il n'y a pas de ça. Oubliez ça. Là. La Ligue s'en fout carrément de qui gagne, qui perd. Faut que le produit sur la glace soit le mieux possible. Certains vont dire que les arbitres sont pourris. Moi, je vais vous dire quelque chose. Là. Ça fait 32 ans que je fais ça. Je vais voir des matchs en Ontario. Je vais voir des matchs dans l'Ouest. J'assiste à des Coupes Memorial qui sont officiées par des gars de l'Ontario puis des gars de l'Ouest. Je ne veux pas mettre de nom là, puis dire un tel n'est pas bon puis un tel est bon. Je dis que d'une façon générale, les matchs sont beaucoup mieux officiés dans la Ligue junior majeure du Québec qu'ils ne le sont dans les deux autres ligues. Puis ça, là, vous pouvez demander à plusieurs recruteurs. C'est gênant des fois de voir les officiels arriver à la Coupe Memorial de l'Ontario et de l'Ouest. Tu dis c'est supposé être les meilleurs. Puis je parle d'officiels, je parle d'arbitres, mais je parle de juges de ligne aussi. Là. Certaines années, c'est épouvantable. Je me souviens quand on a changé le règlement en 2002. Jusqu'en 2001 à la Coupe Memorial, les officiels étaient fournis par la Ligue Hôtesse. Alors, le tournoi était au Québec, c'était les officiels du Québec. Le tournoi était en Ontario, des officiels d'Ontario, en l'Ouest, etc. Puis en 2001, ça avait été vraiment flagrant là, que les arbitres de l'Ouest avaient été très durs sur les Foreurs de Val-d'Or, dirigés par Claude Bouchard, qui avait été battu en finale par Red Deer. Là, je ne veux pas dire, encore une fois, que les Foreurs ont perdu à cause de l'arbitre, mais disons que les arbitres avaient été difficiles. Alors, la Ligue canadienne, en 2002, avait décidé, peu importe où a lieu le tournoi, on va avoir des officiels de chaque ligue. Puis je me rappelle, en 2002, c'était à Guelph, en Ontario, et François Saint-Laurent, qui était l'arbitre du Québec, qui représentait la Ligue junior majeure du Québec à cette époque-là, avait arbitré et la demi-finale et la finale, même si le tournoi était en Ontario et même si une équipe du Québec était impliquée. Alors, puis tu sais, souvent, c'est arrivé dans l'histoire que les officiels du Québec ont été supérieurs, là. Alors, ça, je dis ça, ça, c'est le message que j'envoie aux partisans. Vous pensez que les arbitres sont pourris au Québec? Vous pensez que, dites-vous que dans la grande majeure partie des cas, les arbitres au Québec sont supérieurs à ce qui se passe en Ontario et dans l'Ouest. Puis moi aussi, des fois, je regarde ça. Puis moi aussi, je me dis, hey, boy, hey, qu'est-ce que c'est ça, cette punition-là? Et on le fait tous, là. On est des, entre guillemets, moi, je suis un journaliste, je couvre la Ligue, puis j'ai pas de parti pris, contrairement aux partisans. Sauf que des fois, je suis capable de dire, aïe, aïe, ça n'avait pas de bon sens. Puis moi aussi, il y en a des individus que je nommerai pas, que je trouve meilleurs que d'autres, puis il y en a que je trouve moins bons que d'autres aussi. Puis je ne les nommerai pas non plus. Je reviens donc. Si on prend la série là, Québec-Shawinigan, qui a beaucoup fait jaser, dans le match numéro 4, avant de parler du match numéro 5, on en a parlé un petit peu, là, mais dans le match numéro 4, souvenez-vous, en prolongation, il y a eu une infraction signalée contre Pierre-Éric Dubé des Cataractes en zone derrière le filet, qui n'était pas une chance de marquer. Et on a signalé cette infraction-là, alors ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas donné de punition non plus. Puis là, les gens à Shawinigan se sont tous pris la tête à deux mains en disant « Qu'est-ce que c'est ça, cette infraction-là? » Et on a entendu tout de suite « Ah, oh, c'est bien, Québec run la Ligue ne veut pas que Shawinigan gagne, la Ligue veut que Québec gagne. » Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a pas eu de but des remparts dans cet avantage numérique-là. Puis un petit peu plus tard, Maverick Book a marqué pour provoquer le match numéro 5. Alors, c'est tombé un peu dans l'oubliette, cette histoire-là. Mais s'il avait fallu que les remparts marquent en prolongation dans ce match-là et qu'ils gagnent la série, premièrement, il n'y aurait pas eu de match numéro 5, on ne parlerait pas de la controverse du match numéro 5, et tout le monde crierait au meurtre à Shawinigan. Là, finalement, l'équipe a tenu le coup en désavantage numérique, les Cataractes, puis ont marqué par la suite. Alors, ça crée le match numéro 5. Là, la situation inverse se passe. Les remparts écopent d'une punition en fin de match. Moi, selon moi, elle n'était même pas douteuse. Puis même quand la punition est arrivée, Patrick Roy n'a même pas réagi au banc des siens parce que je pense qu'il savait que c'était une punition. Là. Il n'y avait même pas de doute. Puis c'était en plus une possible chance de marquer. Puis c'était encore contre Pierre-Éric Dubé. Le même Pierre-Éric Dubé qui avait été puni dans le match numéro 4 en prolongation. Là, la différence, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Cataractes ont profité de l'avantage numérique pour marquer. Puis on n'était pas encore en prolongation. Il restait une quarantaine de secondes quand les Cataractes ont gagné. Imaginez, là, l'autre, c'était en prolongation. Alors, Québec avait encore un peu de temps pour réagir. Finalement, on a retiré le gardien. Shawinigan a ajouté un but. Les Cataractes ont gagné la série. Alors là, à Québec, évidemment, certains crient au meurtre. Et Patrick n'était pas content après le match et a dit que c'était un manque de jugement de l'arbitre. Quand dans la défaite, des fois, on peut dire des choses, c'est certain que c'est décevant. Là, puis ces gens-là mettent leur trip sur la table puis tout ça. Moi, je pense que dans un cas comme dans l'autre, on aurait crié au meurtre. Si Québec avait compté en prolongation dans le match numéro 4, on aurait crié au meurtre du côté de Shawinigan. Puis là, ben, dans le match numéro 5, c'est Québec qui est un peu, comme on dit, défavorisé, appelons ça comme ça. La punition, selon moi, à Komarov, était plus méritée que celle à Dubé dans le match numéro 4. Mais bon, celle à Dubé, il n'y a pas eu de conséquences, fait qu'on n'en parle plus. Mais celle à Komarov, il y a eu des conséquences, on en parle. C'est comme ça. C'est l'arbitre. Il y a un vieux sage qui disait toujours « Les arbitres sont un mal nécessaire dans tous les sports. » Ça, c'est un cas. Il est arrivé le cas également à Charlottetown à la fin du match numéro 2. Puis là encore, il y avait eu le cas à la fin du match numéro 2 contre Sherbrooke quand on a donné une punition. Dans la fin du match numéro 2, ouais, c'est ça, quand on a donné une punition à 2 minutes 30 de la fin à Xavier Parent. Fin du match numéro 1, à Xavier Parent, qui a pavé la voie à la victoire des Islanders. T'sais, ça aussi, ça a fait jaser, mais c'était une punition qui était méritée, sauf que parce qu'elle arrive à 2 minutes 30 de la fin, tout le monde crie au meurtre, ça se peut pas donner une punition comme ça. C'était une infraction. Puis l'erreur, c'est pas d'avoir à signaler l'infraction, l'erreur, c'est de l'avoir commise en zone offensive. Xavier Parent, qui avait frappé son rival Lucas Cormier, dans le fond, ça a donné un avantage numérique, puis Charlottetown a marqué. Si Charlottetown ne marque pas, on n'en parle pas de cette punition-là, mais on en a parlé beaucoup à Sherbrooke à cause de ça aussi. Alors, je reviens à la punition là, pour l'infraction sur le hors-jeu. C'est sûr que ça, c'est un règlement qui fait jaser. Si tu prends la rondelle avec ta main sur la glace ou dans, puis que tu transportes la main comme joueur de centre avec la main, il y a une infraction de signaler. Là, il restait une minute quand ça a été signalé. Les Islanders venaient de prendre les devants 3-2. Et là, Xavier Simoneau est chassé pour cette infraction-là. Par le juge de ligne, Matt Hicks. Ce n'est pas l'arbitre qui a signalé, c'est le juge de ligne. Selon la réglementation de la Ligue junior majeure du Québec, c'était le bon call. Passez-moi l'expression en anglais. Est-ce que là, le moment du match pour signaler ce genre d'infraction-là était le meilleur? Peut-être pas. Mais si on ne le signale pas, Là, peut-être que Shawinigan dit ouais, « Comment ça que vous n'avez pas signalé cette infraction-là? C'en était une. » Parce que souvenez-vous, à la fin du premier match, Québec-Shawinigan aussi, c'est Shawi qui n'était pas de bonne humeur lorsque le but de Komarov avait été marqué pour donner les devants 1-0. Il reste là qu'on ne peut pas contrôler ça. Puis j'ai beaucoup aimé la réponse. Hier, on a parlé avec Jim Holton, l'entraîneur-chef des Islanders, puis je suis revenu sur l'incident en question. Puis il a dit « Écoutez, là, c'est terminé, on n'y peut plus rien. » Puis c'est pas là qu'on a perdu le match. Ils ont dominé durant tout le match, les Islanders. Ils n'ont pas été capables de creuser l'écart. Le gardien Lavallée était très bon dans le match numéro 2. Puis si on avait tué le fameux désavantage numérique, on aurait gagné le match, puis la série serait égale 1-1. Là, on s'en est allé en prolongation, parce que Dubé, encore lui, a égalé la marque. Il restait 6 secondes. Ça a provoqué le match en prolongation. Si Charlottetown gagne au début de la prolongation, probablement que l'infraction de Simoneau, on n'en parle pas autant, là. Mais là, Shawinigan a gagné en prolongation. Là, Shawinigan mène 2-0. Fait que là, les partisans de Charlottetown, j'ai vu sur les médias sociaux, « Ah, on le sait, la Ligue ne veut pas que les Maritimes gagnent. » Ça, premièrement, c'est complètement ridicule, là. Je veux dire, si la Ligue a 6 de ses 18 équipes dans les Maritimes, pourquoi la Ligue ne voudrait pas que les Maritimes gagnent? Si c'est ça, pourquoi la Ligue donne la Coupe Memorial à une équipe des Maritimes si on ne veut pas les avoir? Là, c'est complètement ridicule, ça. Les partisans, là, que vous, si vous pensez là, que votre ville est défavorisée, là, ôtez-vous ça de la tête, là. Il n'y en a pas de complot. Il n'y a pas personne. Il n'y a pas de Gilles Courteau qui appelle les arbitres et dit là, tu vas donner des punitions à soir à cette équipe-là parce que je ne veux pas qu'ils gagnent. Voyons donc, là, s'il vous plaît. Là. Soyons sérieux là, quand même. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Bref, cette punition-là, pour la fameuse erreur sur la mise en jeu, était un peu tirée par les cheveux. Mais on a appliqué le règlement. Que voulez-vous qu'on fasse? C'est 2-0 pour Shawinigan. Et Charlottetown va tout faire pour se relever à compter de ce soir, match numéro 3. Alors, c'est mon point que je voulais jaser un peu sur les arbitres. Tout ça pour vous dire que ce soir, il va peut-être avoir encore une décision controversée. On ne le souhaite pas. On ne souhaite jamais qu'il y ait des décisions controversées. Mais de signaler une infraction à un certain moment, ce n'est pas parce qu'il reste une minute ou qu'on est en prolongation qu'on ne peut pas le faire, là. Puis, on l'a fait dans le match numéro 4 à Shawinigan. Puis, on l'a fait avec quelques instants à faire dans le match numéro 5. On l'a fait avec quelques instants à faire dans le match numéro 2 à Charlottetown. Ça risque d'arriver encore ce soir, demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Ça risque d'arriver dans la Ligue nationale. Il y en a des erreurs dans la Ligue nationale aussi, là. Souvenez-vous, Vegas contre Minnesota quelques années, là, le fameux coup de bâton là, lors d'une mise en jeu, puis par la suite, Vegas a donné 3 buts dans le désavantage numérique, pas perdu le match. Facile de dire que c'est à cause de l'arbitre. Faites ta job aussi. Là. Tu sais, je veux dire, présentement, là, le désavantage numérique des Islanders, il n'est pas fort là, contre Shawinigan. Ça ne marche pas en tout. Présentement, les gardiens de Shawinigan sont meilleurs que la Pena de Charlottetown. Il y a ça aussi, il faut tenir en ligne de compte. Alors, de dire que c'est 2-0 Shawinigan en ce moment à cause des arbitres, je trouve ça gratuit un petit peu. Puis de dire que Shawinigan a battu Québec à cause de l'arbitre, je trouve ça gratuit aussi. Tu sais, Québec naît 3-1 dans le match numéro 5. Là. Québec naît 2-1 dans cette série-là. Là. Puis ça, on dirait qu'il n'y a pas personne qui en parle. Là. Alors, c'est facile de dire qu'on a perdu à cause de l'arbitre. Ça dédouane. On a perdu à cause de l'arbitre, mais il y a peut-être d'autres affaires qui se sont passées dans la série avant qu'il faudrait regarder aussi. Dans l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, 8 fois, une équipe qui a perdu les 2 premiers matchs a finalement renversé la vapeur pour gagner la série. Alors, c'est ce que Charlottetown doit faire. C'est arrivé une seule fois en finale en 1995. En 2015, je parlais tantôt de Rimouski contre Québec. C'est là que ça s'est passé. Rimouski avait perdu 2 premiers matchs à domicile contre les Remparts et était revenu pour gagner la série en 7 matchs. Alors ce soir, les Cataractes ont une chance de prendre les devants 3-0 dans la série. Ils reçoivent les Islanders de Charlottetown. Pas besoin de vous dire qu'il y a de l'engouement en Mauricie pour cette série-là. Match numéro 4 sera présenté également demain sur les ondes de RDS. Je serai d'ailleurs à Shawinigan demain pour la description du match numéro 4. Je ne peux pas y aller ce soir en raison du match entre Laval et Springfield. Alors, Jasmin Leroux sera là ce soir avec le collègue Marc-André Dumont. Et hier, en marge de cette série-là, on a fait un brin de jasette avec Xavier Bourgault des Cataractes de Shawinigan qui a marqué 3 buts en prolongation depuis le début des présentes séries. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Voici cet entretien avec l'espoir des Oilers d'Edmonton.
Après une rencontre qui ne s'est pas terminée comme il le souhaitait, Béa et Ben se retrouvent de manière inattendue à un mariage et font ce que deux adultes matures feraient pour sauver les apparences, faire semblant d'être le couple parfait. N'importe qui sauf toi, une comédie à regarder dès le 26 avril sur Crave. 1975, fin de la guerre du Vietnam. Un capitaine de l'armée chargé des exilés aux États-Unis doit lutter pour ne pas révéler sa véritable identité. Espion du Parti communiste. Le sympathisant, une série originale HBO à regarder dès maintenant sur Crave.
Xavier, si je t'avais dit avant de partir pour Charlottetown que vous reviendriez à la maison avec une avance de 2-0, là, je suis pas mal convaincu que c'est un scénario que peut-être tu aurais eu de la misère à croire, mais que tu aurais accepté volontiers.
Oui, c'est sûr que je l'aurais accepté, c'est sûr, mais juste d'aller chercher une victoire, je pense arrêter plus que satisfait en tant qu'équipe. Mais t'sais, on l'a vu lors du deuxième match, ils ont sorti vraiment fort. Mais même si je pense qu'on a réussi à contrer leur attaque, on n'a pas donné grand-chose, on a eu beaucoup de tir. Puis je pense qu'on a trouvé une façon encore de gagner une fois, puis on était opportuniste.
Ça va être le retour devant vos partisans demain, dans le fond, depuis le match numéro 4. Vous êtes allé gagner le match numéro 5 à Québec, puis là, vous avez joué deux matchs à l'étranger. Je pense que ça risque d'être survolté un peu là, demain à Shawinigan.
Alors, on l'a vu contre Québec, il y avait déjà une ambiance assez folle, mais je pense que ça va être encore plus fort. Ça va être tout le monde en jaune. Le nombre de trompettes qu'il y a ici, je ne sais pas comment il y en a, mais c'est assez fou, le bruit. Puis je pense que ça va être intimidant pour l'autre équipe. T'sais, on l'a vu à Charlottetown tirer une bonne ambiance, mais ça ne se compare pas ici.
Les Maritimes, c'est différent avec les foules du Québec. Là, on le voit à chaque année, puis c'est encore le cas cette année. Vos partisans vous apportent beaucoup d'énergie. Là.
Oui, vraiment. T'sais, nous attendait à l'aéroport, puis on n'a même pas encore gagné. On voit vraiment le soutien. Ça semble ici à Expo Shawinigan. On voit vraiment que sont dédiés à nous, même s'il n'y a pas tout le temps eu des années faciles. Depuis qu'on arrivait à 16 ans, on a mangé beaucoup de volets. Là, on a eu des games de 11-0, puis ils continuent à nous voir à l'aréna pareil. Puis c'est le mérite d'avoir une équipe comme ça cette année.
Tu viens juste de mentionner quelque chose, je pense, qui est extrêmement important. On n'a pas encore gagné. Je pense que c'est ça, faut retenir. Là. C'est 2-0, mais ça s'est déjà vu, des équipes qui remontent des déficits de 2-0.
Oui, c'est sûr. Puis en plus, on l'a vu dans la série contre Sherbrooke, qui ont gagné leur game à l'extérieur. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils sont encore dans la série. C'est juste 2-0, c'est un 4-7, puis ça peut être... Non. C'est encore une longue série, donc c'est sûr que c'est de se focusser match par match, puis... On sait qu'ils vont sortir vraiment fort, mais ça va être à nous de sortir encore plus fort et d'être les agresseurs face à eux.
Vous êtes passé très près d'être éliminé là, plus qu'une fois. Si on regarde là, le match contre Québec, le match numéro 4, vous étiez en prolongation. À certains moments, vous avez eu un désavantage numérique. T'sais, la ligne est mince entre on était à ça de se faire éliminer, puis là, on est à ça de gagner la Coupe du Président, dans le fond. Là.
Ah, ben, comme tu dis, en ce moment, on serait peut-être en vacances, mais tu sais. Ça, mentalement, tu te dis, ouais, on a passé peut-être à un but, on a gagné en prolongation, tu passes à un but près d'être éliminé, mais on a trouvé une façon encore. Là, d'un match numéro 5, tout perdu, on a trouvé une façon, même encore là, on perdait 3-1. Mentalement, des fois, c'est dur, mais on dirait qu'en tant qu'équipe, on trouve tout le temps une façon de revenir dans le match, on ne décourage jamais, puis je pense que c'est tout le monde qui contribue. Défensivement, je pense qu'on a beaucoup de ça, puis on ne donne pas grand-chose à l'autre équipe. C'est encore vraiment le fun de jouer au hockey, donc on peut tout le temps d'apprendre.
Le but en fin de deuxième à Québec la semaine passée a peut-être changé les choses. Le but de Haas, quand il restait peut-être 2 minutes en deuxième, vous êtes rentré au vestiaire 3-2 au lieu de 3-1, puis ça vous a redonné peut-être le boost que ça prenait.
Oui, il a fait vraiment du bien. Ça a donné du momentum à l'équipe. Je pense que ça a mis Québec un peu ses talons. Puis, tu sais, encore une fois, à Charlottetown, c'était 2-1, puis on se rappelle ce qu'on a fait. On l'a déjà fait, donc c'est sûr que c'est une forme d'expérience, puis on sort de ça pour se motiver. Tu sais, c'est 2-1, oui, ils nous dominent, mais tu sais, c'est juste une shot, ça peut être 2-2, puis en prolongation, tout peut arriver. Donc, on reste tout le temps dans le match, même à ça.
Quand une équipe veut gagner un championnat, évidemment, ça prend du talent, ça prend de la persévérance. Des fois, ça prend un peu de chance aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, tout ça roule pour vous autres?
Ben ouais, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose de spécial dans ce groupe-là. On est vraiment soudés, puis on dirait, on trouve tout le temps, tu sais, comme tu as dit, il y a vraiment quelque chose de spécial. Puis, oui, on se crée notre propre chance, mais on travaille pour. Cette année, ça a vraiment été facile. Beaucoup de blessures, on a fini 7e, mais je pense que ça ne démontre pas vraiment le classement final. Puis, je pense que c'est vraiment ce qui a fait en sorte que tout le monde a pris l'expérience. Les plus jeunes, ils ont beaucoup de temps de glace. Puis là, je pense que ça a vraiment aidé tout le monde dans l'équipe.
En quoi, Xavier, moi, quand je regardais l'analyse de la série au départ, je disais, peut-être que Charlottetown a une petite coche sur Shawinigan, mais j'avais beaucoup misé aussi sur le fait que vous êtes un groupe qui a été élevé ensemble. Il n'y a eu pas tant eu de transactions que ça, si on compare peut-être à une équipe comme Charlottetown, tu sais, où on est allé chercher beaucoup de joueurs au fil des dernières années. Tu sais, vous êtes le groupe ensemble, là, surtout toi, tu fais partie là, des cinq gars là, tu sais, qui ont été repêchés, qui ont grandi ensemble. Est-ce que tu penses que ça fait une différence en ce moment?
Définitivement, je pense que oui. Oui, on n'a pas été chercher beaucoup de joueurs, mais je pense que c'est vraiment la chimie d'équipe. Je me rappelle les Huskies. Pendant mon année de 16 ans, eux aussi avaient développé leurs joueurs dans leur organisation. Puis je me rappelle, c'était peut-être pas l'équipe qui avait nécessairement le plus de talent. Il y avait Walter de Romanville qui avait été beaucoup cherché de joueurs, beaucoup de talent, mais je pense que c'est vraiment la chimie d'équipe qui amène ça. Puis on le voit ici à Chaoui. On était élevés ensemble, on a grandi, on a appris à perdre, puis on a appris à gagner aussi. Donc c'est vraiment le fun de voir ça aujourd'hui.
La prolongation, ça semble être votre spécialité aussi. 5 victoires en 5 matchs. Toi, tu as compté 3 buts. Ça s'était jamais vu là, dans l'histoire de la Ligue. Qu'est-ce qui arrive quand vous retournez au vestiaire entre la troisième et la prolongation? Avez-vous l'impression que vous êtes confiant, vous êtes sûr que vous allez gagner?
Oui, ben là, ça commence à être répétitif, mais ouais, on se dit, tu sais, en prolongation, tu donnes tout. Dernièrement, je pense aussi que on se crée notre propre chance. On travaille pour. Toutes les efforts qu'on fait, tous les sacrifices qu'on fait durant le game, je pense, en bloquant les tirs, tout, ça nous ramène à gagner des games. Tu sais, en prolongation, tu diriges les rondelles au filet, puis tout par jeu. Donc, on dirait qu'on crée notre propre chance, puis on lâche jamais comme on fait. Tu sais, on perd des matchs d'un, mais on est tout en mode à remonter.
Quand on regardera l'année 2021-22 en rétrospective, il est arrivé beaucoup de choses encore. Championnat du monde junior, à moitié, oui, tu fais l'équipe, après ça, tu te blesses, après ça, le tournoi est cancellé. Là, tu arrives à Shawinigan, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quand tu regardes cette saison-là, c'est un peu beaucoup. Là.
Ouais, il y a beaucoup de choses qui s'est passé, comme tu as dit. Ouais. C'est une longue saison, encore une fois. Présentement, tu en compte au mois de juin. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. On dirait que c'est comme on reprend la saison de l'année passée un peu. L'année passée, j'ai joué, je pense, 29 games. On est passé en première ronde. Donc, c'est sûr, cette année, c'est vraiment le fun de pouvoir attraper ce temps-là puis jouer le nombre de matchs que peut-être l'année passée on aurait pu jouer de plus en série, mais c'est vraiment le fun de pouvoir se rattraper de ce côté-là.
Sans se projeter trop loin, il faut rester dans le présent, mais les joueurs sentent, qu'est-ce que ça représenterait pour Shawinigan là, si vous arrivez à gagner cette série-là?
Ben c'est sûr, du côté des deux équipes, c'est leur première présence, leur première chance de gagner une première coupe. Donc, c'est sûr que ça serait vraiment incroyable, je pense, la ville. On a déjà eu la Coupe Mémoriale, on l'a vu, l'ambiance qu'il y avait. Puis là, tu sais, avec la première coupe du président, ça serait fou à Shawinigan. Déjà qu'il y a l'ambiance et partout dans la ville, c'est, ça se voit, ça se sent. Tu t'en vas juste au resto, puis tu sais, tout le monde te reconnaît, tout le monde te souhaite bonne chance. Donc, ça serait vraiment cool.
Xavier, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite des choses. On va être là à compter de demain là, pour présenter les matchs. Puis, que le meilleur gang. Merci beaucoup.
Ouais, merci beaucoup.
Merci, Xavier.
Alors, 3 buts en prolongation la même année, c'est du jamais vu. Il y avait 6 autres joueurs dans l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui avaient déjà inscrit 2 buts en prolongation la même année. Mais d'en faire 3 là, la même année, honnêtement, c'est beaucoup de... C'est du stock, comme on dit, quand la prolongation commence. Alors, Maverick Book en a marqué un également. Angus Booth en a marqué un. Et les 3 autres appartiennent à Xavier Bourgault. Vous savez, les Cataractes tentent de briser une séquence. Là, on est rendu à 53 ans dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec sans jamais avoir gagné un championnat, une Coupe du Président. Les Blades de Saskatoon dans la Ligue de l'Ouest, ça fait 56 ans qu'ils sont... dans la Ligue depuis 1966, n'ont jamais réussi à gagner. Il y a d'autres formations comme ça là, qui cherchent un premier championnat. Les Pats de Regina, on parle de 42 ans. Les Warriors de Moose Jaw, 37 ans. Même chose là, pour les Frontenacs de Kingston, les Wolves de Sudbury en Ontario. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas gagné de championnat. Alors, c'est sûr que si jamais Shawinigan l'emporte cette semaine, que ce soit demain, que ce soit la semaine prochaine, c'est quelque chose de spécial là, qu'on va vivre à Shawinigan. Un mot sur les autres nouvelles de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Du côté de Bathurst, on a tenu une conférence de presse mardi pour confirmer que Jason Clark allait non seulement demeurer comme entraîneur, mais il allait également devenir maintenant le nouveau directeur général de l'équipe. Sylvain Couturier a démissionné, on le sait, il était là depuis une vingtaine d'années, dont une quinzaine comme directeur général. La rumeur d'ailleurs envoie Sylvain Couturier avec les Eagles du Cap-Breton. J'ai l'impression que ça va être confirmé là, cette semaine dans le cas de Sylvain Couturier et du Cap-Breton. Alors lui va remplacer Jacques Carrière qui lui a démissionné également de son poste avec les Eagles. Et il y a les Remparts qui ont tenu ce matin leur conférence de presse bilan là, de la dernière saison. On sait que lors d'élimination, mercredi dernier, Patrick Roy avait été évasif un peu quant à son retour l'an prochain comme entraîneur, comme directeur général. Il n'y a pas eu de précision là-dessus concernant l'avenir de Patrick Roy. Tout ce qu'on a été permis d'apprendre ce matin, en tout cas, je lisais les collègues, j'ai suivi un peu là, le point de presse du coin de l'œil. Viljami Mariala, le Finlandais, ne sera pas de retour l'an prochain, va rester en Finlande. Alors, on devra se dénicher un autre Européen là, du côté des Remparts pour accompagner Sivolod Komarov, le défenseur russe. Mais pour ce qui est de l'avenir de Roy, ben, c'est pour l'instant la période de réflexion, les vacances. Moi, j'ai comme l'impression qu'il sera de retour. La simple et bonne raison que les Remparts ne repartent pas la roue au complet l'an prochain. C'était le début d'un nouveau cycle, qu'on recommençait à neuf. Peut-être que la motivation n'y serait plus. Mais les Remparts vont avoir encore une solide formation l'an prochain. La plupart des meilleurs éléments de l'équipe sont de retour. Évidemment, on parle des joueurs de 20 ans, là, comme toutes les équipes, mais dans l'ensemble, le noyau est quand même assez solide. Un sujet qui a fait beaucoup jaser depuis hier également, c'est le nouveau logo des Saguenayens de Chicoutimi. Puis là, je n'embarquerai pas dans une polémique, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il n'est pas beau. C'est juste que ça fait jaser. Quand tu changes de logo d'une équipe qui est installée depuis longtemps, qui est une institution, tu viens un petit peu, comme on dit, brasser les convictions. Et là, certains déplorent le fait qu'on ne voit plus le mot Chicoutimi, qu'on ne voit plus Saguenay-Lac-Saint-Jean sur le logo. Vous avez sûrement vu sur les médias sociaux de quoi ça a l'air. C'est une espèce de S qui peut représenter la rivière Saguenay, puis tout ça. Puis la couronne est encore là, le bleuet est encore là, mais on a beaucoup épuré. On est allé à la mode un peu des tendances, si on veut, des années 2020. Alors, quand tu regardes les publications sur les médias sociaux, ben, tu peux classer ça en deux colonnes. Il y en a qui s'arrachent les cheveux de sa tête, qui ne comprennent pas pourquoi on a changé ça. Il y en a d'autres qui trouvent ça super beau. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on avait changé le logo à RDS, je ne sais pas si vous vous souvenez, le logo d'RDS, au début, là, les points jaunes, là, avec c'était comme des lumières, si on veut, jaunes dans un écran noir. Puis on était arrivé avec le nouveau logo rouge. Tout le monde avait un peu sursauté. Tu sais. Puis finalement, ben, ça fait 20 ans que le logo est là, puis il est apprécié, puis il est aimé. Mais c'est certain que quand tu touches à une institution, appelons ça comme ça, ben tu risques de brasser les convictions un petit peu. Alors, c'est le 50e anniversaire des Saguenayens l'an prochain. C'est le 50e anniversaire, soit dit en passant, des Olympiques aussi, à Gatineau. Là. Mais de ce côté-là, on n'a pas changé de logo. Là, mais à suivre, donc, cette histoire du logo des Saguenayens de Chicoutimi. Vous mentionnez peut-être qu'en Ontario et dans l'Ouest, en Ontario, les Spitfires de Windsor mènent 2-1 la série finale contre Hamilton. Ça, c'est une grosse surprise. Match numéro 4 à Windsor vendredi. Les Bulldogs qui se sont présentés dans cette finale-là, 12 victoires et aucune défaite. Et là, ben, les Spitfires sont allés chercher 2 des 3 premiers matchs. Donc, c'est une surprise, il n'y a pas de doute. Dans l'Ouest, ben Edmonton a pris les devants 2-1 hier contre les Thunderbirds de Seattle en remportant le match numéro 3, 4-0. Blanchissage pour Sébastien Cosa et un autre but pour Caden Goulet, le défenseur qui appartient aux Canadiens. Le match numéro 4 a lieu également ce soir à Seattle. C'est présenté à TSN en fin de soirée, là, heure de l'Est, 22h. Donc, si vous voulez suivre un peu Caden Goulet et les Oil Kings d'Edmonton, c'est à TSN ce soir. Peut-être vous mentionner en terminant qu'on a confirmé l'horaire du tournoi Linka Gretzky cette semaine. C'est ce championnat qui a lieu à chaque été pour les moins de 18 ans. Ça aura lieu à Red Deer du 31 juillet. Du 31 juillet au 6 août prochain. RDS va vous présenter 7 matchs de ce tournoi-là qui aura lieu donc en plein été, en pleine canicule, le 31 juillet, donc à 21h, Canada-Suisse, le 2 août, Canada-Slovaquie, à 21h, le 3 août, Canada-Suisse. Suède. Il y aura congé le 4. Les deux demi-finales auront lieu le 5 août et les deux finales auront lieu le 6 août. Et par la suite, le championnat du monde junior va commencer le 9 août à Edmonton. Donc, on aura trois semaines de hockey là, du 1er au 21 août, du 31 juillet au 21 août, si on veut. On aura trois semaines de hockey sur les ondes de RDS, le Linka Gretzky pour les moins de 18 ans et la reprise du Mondial Junior des moins de 20 ans là, qui aura lieu à compter du 9 août. On sera là. Donc, on va sortir de nos vacances durant l'été pour venir vous présenter ces tournois de hockey-là. Suivez évidemment les médias sociaux là, pour en apprendre davantage. Il y a le Combine qui s'est tenu également en fin de semaine, qui a fait beaucoup jaser. Les collègues qui sont allés rencontrer les espoirs à Buffalo. Plusieurs reportages sont présentés là, sur le RDS.ca. Éric Leblanc était là-bas en compagnie de Nicolas Landry. Alors, je vous invite à suivre ça au cours des prochaines semaines. On a tenté de connaître un peu mieux là, tous ces joueurs qui seront repêchés à compter de la séance de sélection là, de la Ligue nationale qui aura lieu les 7 et 8 juillet prochains. Parlant de la séance de sélection, le Canadien a annoncé ce matin que c'est à compter de vendredi. Donc, ce vendredi, le 10 juin, dans deux jours, que les billets seront mis en vente pour assister à la séance de sélection de la Ligue nationale. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Habituellement, c'était gratuit. Là, je pense qu'on doit acheter des billets. Mais si vous voulez assister là, à ce moment historique, le Canadien qui va repêcher premier au total, surveillez ça là, parce que c'est au cours des prochains jours que les billets vont s'envoler. C'était notre avant-dernière présentation de Sur la glace. On va s'en faire une dernière la semaine prochaine, probablement mercredi prochain. Est-ce que la série du Rocket sera terminée? Sinon, il y aura peut-être un septième match le soir même. Dans le cas de la finale de la Coupe du Président, c'est la même chose. Est-ce qu'elle sera terminée ou est-ce qu'on sera à un match numéro 7 la semaine prochaine? On va évidemment parler de la Coupe Memorial qui va s'en venir. Alors, ce sera notre dernière de la saison la semaine prochaine sur la glace. Une saison qui s'est étirée. On pensait arrêter ça, nous, en avril, au début mai, mais là, on est rendu à la mi-juin et on est toujours là. On espère que ça vous plaît, évidemment. Alors, je remercie Félix Payet qui était là à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, notre équipe habituelle. Mes invités, Patrick Friolet, notre collègue qu'on va retrouver ce soir à Laval avec nous à la Place Belle, et également Xavier Bourgault des Cataractes de Shawinigan qui affronte ce soir les Islanders de Charlottetown. Je vous souhaite une bonne semaine. RDS Laval ce soir, RDS 2 Shawinigan, demain RDS Shawinigan, vendredi RDS Laval, samedi en après-midi RDS Shawinigan, plutôt Charlottetown, et le soir contre Laval. On est là pour les deux finales au cours des prochains jours. Salut tout le monde, merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.